session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 9 juillet 1990.
D'abord, bonjour à tous ceux qui viennent pour ces quelques jours de réflexion philosophique sur le corps. Je m'excuse, il y a eu des maldonnes, je ne sais pas du tout comment ça s'est fait. Ces sessions philosophiques, depuis un certain nombre d'années, commencent toujours le dimanche soir, c'est-à-dire le lundi matin, pratiquement. Et on avait annoncé. On sait que le lundi soir, de sorte qu'il y en a certains qui arriveront ce soir. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a eu une déviation à un moment donné. Tu vois, ceux qui sont là ce matin, c'est très bien. C'est normal. Ceux qui arriveront ce soir, c'est ceux qui auront loupé le premier train. Alors, ils prendront le second. Et ils raccrocheront. Puisque ce matin, je compte vous donner un peu l'esprit dans lequel nous faisons cette recherche. C'est important. Et puis, l'organisation aussi. Parce que il y a des cours, il y a des carrefours. Et les carrefours font partie essentielle. C'est libre, mais ça fait partie quand même essentielle de notre recherche. C'est simple, les cours ne sont pas des cours magistraux, surtout pas, ce sont des cours de recherche. C'est ça, c'est très important. Je fais un petit peu cette recherche, cette phrase qui m'avait beaucoup frappé, de notre pape actuel, qui quand même avant d'être pape était philosophe. Et même si on est pape, on reste encore philosophe. Il disait, il faudrait une philosophie du corps. Ça m'avait beaucoup alerté, cette affirmation du pape. Parce que c'est vrai que dans la scolastique habituelle, c'est-à-dire une philosophie réaliste d'Aristote, de Saint et dans les succès d'années de saint Thomas, le corps était toujours considéré comme quelque chose de second, ce qu'il reste du reste, mais un peu négligé. Et le Saint-Père, parce qu'il a une formation philosophique un peu par Max Scheler, donc féminologique, a considéré toute l'importance du corps. J'en dirai un petit mot tout à l'heure avec Merleau-Ponty. C'est très vrai que la féminologie met très en lumière le point de vue du corps. Et c'est peut-être à cause de là que nous devons être très attentifs à cela, sans nous laisser emporter par ce point de vue. Il faut rester dans une philosophie réaliste, mais il faut voir la place de ce genre de réflexion. De sorte que, je vous le dis tout de suite, c'est une recherche que nous faisons. Important de se le dire. Alors, il y aura des cours. Je prendrai la plupart des cours, quoique cet après-midi, tout de suite, à 18h, je demanderai au père Pascal, qui est biologiste, médecin et philosophe et théologien, de nous donner tout l'aspect descriptif. Là, la science nous apporte des précisions intéressante qui pose des questions. Comme il travaille ce problème déjà depuis un certain temps et qu'il pense faire un peu sa thèse de doctorat sur le corps au plan biologique et au plan philosophique, je crois que c'est intéressant de pouvoir profiter de cette réflexion qu'il fait déjà depuis quelques années et qui nous aidera à mieux poser le problème. Toute philosophie réaliste commence par une réflexion descriptive. Et quand je dis réflexion descriptive, c'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter. Nous expérimentons notre corps, hein, parce que nous sommes ici. C'est bien évident. Le corps prend une place importante dans notre vie. Tous les jours, nous dormons. Et quand on dort, on respecte le corps. Je ne dis pas qu'on lui donne la place principale, mais un petit peu. C'est pas notre âme qui dort, c'est notre corps. Si nous avons besoin de dormir, c'est à cause du corps. Et nous lui donnons une place importante. On dort 5 heures par jour, au moins. 6 heures par jour, 7 heures par jour, 8 heures par jour, et quelquefois, va plus loin, 9 heures. Je veux dire maladif. 10 heures par jour. Il y en a qui veulent avoir 10 heures par jour. C'est une très grosse part, hein, sur 24 heures. On mange combien d'heures par jour? C'est encore le corps. On fait de la gymnastique combien de temps par jour? Du sport. Enfin, ils avoir une très grande place. Évidemment, si on est un ascète, tous les grands ascètes disent que l'ascèse la plus grande, c'est par rapport au sommeil. C'est pas tellement par rapport à la nourriture. C'est le sommeil. Arriver à dormir 4 heures par jour, c'est assez ascétique. 5 heures, moyen. Je ne saurais pas dire qu'on est un ascète sur 5 heures par jour. Je dirais tout simplement, on est arrivé à réduire le sommeil. 5 heures. C'est pas tellement ascétique. Mais c'est quand même déjà quelque chose. Victoire de l'âme sur le corps. Alors on mettrait sur le front, je dors 5 heures par jour. Et dans les carrefours, je mettrai ceux qui dorment 10 heures, ceux qui dorment 8 heures, ceux qui dorment 5 heures. Bon, non, je ne ferai pas ça. Ne inquiétez pas, je ne ferai pas ça. Mais on pourrait. Ce serait quantitatif, tout à fait, ça. Tout à fait quantitatif. Et alors, ceux qui dorment 3 heures, il y en a pas parmi nous. Donc, l'aspect descriptif commencera par cela, ce soir. Alors, il y a inversion au programme habituel aujourd'hui, en raison de nécessité d'ordre communautaire. Je m'excuse, parce que justement, on était obligé de faire un petit conseil de congrégation au début de l'après-midi. Ne vous inquiétez pas, il y aura les carrefours. Alors, vous voyez, la division se fait de cette manière-là. Il y aura les cours, puis les carrefours. Les carrefours, je demanderai à tous ceux qui suivent la session et qui désirent les carrefours. Hein. Tout le monde n'est pas obligé d'assister aux carrefours. Tout le monde n'est pas obligé. Mais ceux qui veulent les carrefours. Les carrefours, vous voyez, le système des carrefours, c'est que on n'est pas très nombreux, il y a des chefs de carrefour, des assistants pour les carrefours. Alors il y en aura au moins 3. S'ils sont trop nombreux, on en mettra un quatrième. Alors, comme chef de carrefour, il y aura le père Marie-Dominique, le père Pascal et le frère Martin. Trois. Ah, vous les connaissez pas beaucoup, certains les connaissent, on savent très bien. Mais on se réunira tous ensemble. On pourra rester ici si vous voulez, parce que si on est trop nombreux, on pourra rester ici. Ceux qui ne suivent pas les carrefours quitteront après la conférence. Et puis on restera, et puis on divisera tout de suite en trois groupes. Pour que dans les carrefours, vous puissiez émettre vos questions, dire vos difficultés, apporter vos lumières. On a tous des lumières sur le corps. Alors, voilà, si on est trop nombreux, on ne dit rien. Si on est un petit groupe, on peut le dire. Et c'est pour ça qu'on divise, vous voyez ? Diviser pour régner. Comprenez bien ? Ici, diviser pour pouvoir s'exprimer librement. C'est vrai que c'est un problème important. Alors, vous voyez bien comment on fera les carrefours. J'en reparlerai tout à l'heure. Je dis ça tout de suite pour que, après la conférence, ceux qui ne désirent pas assister au carrefour, tout de suite évacuent les lieux. Et ceux qui restent au carrefour, restent ici. Hein, vous comprenez bien ça. Puis on fera tout de suite une division en trois pour que les responsables des carrefours prennent tout de suite un peu le caractère propre de leur carrefour. Je le dirai tout à l'heure. Les conférences. Vous voyez que le corps est un lieu de rencontre entre l'aspect scientifique, biologique, médical. Normalement, le médecin regarde le corps. C'est le corps qui est malade. Je suis enrhumé. C'est pas mon âme qui est enrhumée. C'est mon corps qui est enrhumé. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai la voix cassée. C'est le corps, ça. Je demande au médecin, mais c'est pas très rapide. On voit que la médecine ne peut pas tout. C'est vrai. Le corps a une opacité. On connaît pas tout. Il y a dû avoir quelque chose, un embranchement, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait. C'est le corps qui est malade, donc le médecin s'intéresse au corps. Mais le corps, le philosophe le dit, les traditions religieuses le disent, le corps est aussi le lieu où habite l'âme spirituelle. Et donc, il y a un échange constant entre l'âme et le corps. Et on parlera de tout ce domaine psychique. Le domaine psychique n'est pas entièrement biologique et n'est pas entièrement spirituel. Ce domaine psychologique s'est beaucoup développé ces derniers temps. C'est important pour savoir ce que c'est que le corps. Les réactions de l'âme spirituelle sur le corporel. Alors on aurait pu aussi inviter des psychologues. Si parmi vous il y a des psychologues, c'est très bien. Ils diront qu'ils sont psychologues. Ils auront un mot à dire. Mais ce n'est pas directement le point de vue psychologique qu'on regarde. Comme ce n'est pas directement le point de vue de l'âme. Mais puis-je parler philosophiquement du corps sans parler de l'âme, sans faire attention au point de vue psychologique? Impossible. Oui. C'est là où on voit combien le corps est au carrefour. Une lumière sur le corps au plan bien. spécial sur le corps au point de vue psychologique et au plan philosophique. Le philosophe a quelque chose à dire sur le corps. La philosophie réaliste. Le point de vue de la fémologie, je prends ici Merleau-Ponty, qui a première partie de son livre « Fémologie de la perception » qui est sur le corps. On en dira un petit mot, forcément. Et puis, il y a un point de vue théologique sur le corps, si on est croyant. C'est pour cela que le soir, j'essaierai de faire une petite théologie sur le corps. Je crois que ça peut nous intéresser, même ceux qui assistent à ces cours de philosophie, qui ne sont pas croyants, sont libres évidemment d'assister à ces cours de théologie du soir. Mais je crois que ça peut intéresser tout le monde, parce que les traditions religieuses intéressent aux philosophes. Et le point de vue théologique peut intéresser le philosophe. Parce que le point de vue théologique va créer des traditions religieuses. Donc vous voyez toute la complexité du sujet. Et ça, je tiens beaucoup à ce qu'on comprenne cette complexité du sujet. Autrement, on simplifie énormément. Vous voyez, Descartes simplifie le corps. Terriblement. Quand je dis Descartes sur le corps, je ne m'y reconnais pas du tout. Tu me dis Descartes n'a rien compris. Ce qui est vrai, il n'a pas compris grand-chose. C'est intéressant de voir que Descartes n'a pas compris grand-chose au point de vue du corps, au point de vue des passions. C'est intéressant. Il a tout ramené à la pensée, aux idées innées. Alors que toute ma vie intellectuelle, on verra, et tout le temps en relation avec mes sensations. Et mes sensations ne peuvent pas se séparer du corps. Et donc, le corps a une place fondamentale dans une philosophie réaliste. Donc, vous voyez bien toute la complexité de cette session. Deux conférences par jour au plan philosophique, la troisième théologique, et puis les carrefours, où on pose les questions, on pose les critiques, les réflexions, et puis je les reprendrai dans la mesure où on juge que ces questions sont importantes, je les reprendrai dans la seconde conférence de l'après-midi. Vous voyez ? Comme ça, on pourra ensemble cheminer dans cette recherche. Philosophie du corps, philosophie réaliste du corps, c'est comme ça que j'intitulerai, avec l'ouverture vers une théologie du corps pour le croyant, pour le chrétien. Parce qu'on pourrait regarder dans les diverses religions la place du corps, dans l'islam, la place du corps. Est-ce qu'il y a un changement de vision du corps dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? On verra ça. Alors, avant d'entrer, je dis tout de suite, parce que c'est important, l'aspect descriptif qu'on verra ce soir, ou le point de vue de la biologie, joue un rôle important, apportant des éléments, des questions nouvelles. Et cet aspect descriptif restera tout le temps. C'est une première conférence, mais c'est toujours présent. Puisque si on fait une philosophie réaliste, l'expérience est toujours présente. Donc, puisque l'expérience est toujours présente, l'aspect descriptif est toujours présent. C'est pour ça que là, quand il s'agit de la philosophie du corps, il y a toujours un dialogue avec le biologiste et avec le médecin. D'autant. Oui. Parce que c'est quelquefois la maladie qui révèle ce que c'est que le corps. Quand tout va bien, un sportif, il a l'expérience de l'unité de son corps. Un malade, il a l'expérience de la complexité de son corps. C'est quand vos dents commencent à vous faire mal que vous dites, tiens, tiens, j'en ai plusieurs. J'ai mal là. Et pourtant, il y a une unité. Si une dent vous fait mal, toute la mâchoire vous fait mal. C'est curieux. Vous voyez, alors il y a l'expérience de l'unité de la complexité. Et l'expérience de l'ordre. Et dans la description, c'est ce qu'on va voir. C'est ça l'aspect descriptif. Il nous fait comprendre des expériences types. Quelle expérience type du corps? Le toucher. La peau. La peau, c'est le mur gardien qui me sépare des autres et qui me met en communication avec les autres. C'est un problème extrêmement important. Donc, l'aspect descriptif, on le voit tout de suite en commençant, mais comprenez bien qu'il sera tout le temps présent. Parce que l'expérience est toujours présente. C'est pour ça que je rappelle, ici au point de départ, que nous faisons cette enquête dans une perspective philosophique bien déterminée. C'est-à-dire une philosophie réaliste. Alors je dis en quelques mots pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est qu'une philosophie réaliste. La philosophie réaliste tient compte de l'expérience. Expérience interne. J'ai mal à ma peau. Je suis mal dans ma peau. Expérience interne, la souffrance. La souffrance me donne une expérience du corps. La tristesse. L'expérience interne. L'expérience externe. Les touchés. L'expérience externe, vous comprenez bien, je suis en expérience avec cette table. La situation dans laquelle je me trouve en face de vous. C'est une situation particulière. Est-ce que le cours philosophique serait changé si on n'avait pas établi ça comme ça? C'est-à-dire, la table est à une certaine hauteur pour mieux vous voir. Et c'est pour vous, ça. Moi, j'aimerais beaucoup mieux être enfoncé dans un trou. Et puis que, de temps en temps, vous entendez la voix et vous n'auriez pas le visage. Ce serait une expérience très particulière. Le cours serait différent. Je ne vous verrai pas. C'est que là, je vous vois réagir. Vous savez, quand on est sur une table et qu'on parle, on voit tout. C'est pour ça que maintenant, les prédicateurs ne se mettent plus dans la chair, parce qu'ils voyaient trop bien les gens qui dormaient. Tandis que maintenant, ils ne les voient plus, alors ils peuvent être tranquilles. Le contact n'est pas le même du tout. Je vais prêcher du haut de la chair. Maintenant, je ne prêche plus jamais du haut de la chair. Je prêche du lutrin. Horizontalement. Arroser les gens qui assistaient et qui voyaient ceux qui dormaient. On voyait très bien tout, on voit tout quand on voit sur la chair. Comme maintenant, je vois tout. Je vois ceux qui s'endorment. Je vois ceux qui s'ennuient. Je vois ceux qui réagissent. Et ainsi de suite. C'est très bien, je crois que c'est très important. On a contact. Il y a l'expérience interne et l'expérience externe. Et c'est important ça, voir ça. Alors il y a deux types de philosophie. Tout de suite. C'est important de savoir ça. Il y a deux types de philosophie. Il y a la philosophie. Et ça s'est fait très vite. Ça s'est fait dès la philosophie grecque. Donc, les sensations externes, les sensations internes, l'expérience est complexe elle implique les deux. Toute expérience implique les deux. Mais il y a un type d'expérience, numéro 1, où les sensations internes sont ordonnées aux sensations externes. C'est-à-dire, je mets toute mon attention sur les expériences externes. Et puis, je sais que dans d'autres domaines, c'est l'inverse. Je respecte ce flux et ce reflux. Je crois qu'une philosophie réaliste implique le respect de ces deux sources. Il y a deux sources à ma connaissance. Les sensations externes. Je touche cette table. Et je sais que je la touche. Je la touche étant située ici. Vous ne la touchez pas, vous. Vous la voyez. Mais par la vue, vous la voyez quand même, vous la touchez quand même. Vous pourriez dire, cette table est peut-être purement artificielle. On a créé un artifice. On projette cette table et vous la voyez et vous croyez qu'elle est vraie. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bouquet de fleurs. Parce qu'on dirait, ces fleurs sont-elles des fleurs cueillies au parc ou des fleurs achetées et artificielles? Remarquez que des fleurs réelles peuvent être achetées, mais pas ici. N'est-ce pas? Alors, il y a des fleurs artificielles. Alors, cette table est-elle naturelle? Est-elle artificielle? Il y a une part de naturel et une part d'artificiel. Bon, les sensations externes jouent un rôle très important dans la philosophie réaliste. Il y a un autre courant philosophique, le courant de Platon, de Plotin, le courant néo-platonicien. Alors, ici, c'est très important, c'est que toute sensation externe est ordonnée aux sensations internes. Et le philosophe prend toujours son point de départ des sensations internes. C'est très net chez Plotin. Et j'ai très net dans le néoplatonisme. Dans le néoplatonisme, toujours, c'est l'expérience interne. Je dis ça parce que c'est très très important pour comprendre justement la philosophie de quelqu'un comme Merleau-Ponty. La phénoménologie du CERN implique toujours le vécu. Le vécu, il est ici. Si on fait la philosophie du vécu, on fait la philosophie des expériences internes. Oui, alors nous avons là l'expérience interne, expérience externe, sensation interne, sensation externe. Donc vous voyez bien, je ne néglige absolument pas ce que représentent nos sensations internes. Mais je dis que dans une philosophie réaliste, on doit pousser jusqu'au bout. Alors pourquoi ça? C'est intéressant de se poser pourquoi. Pourquoi l'option d'une philosophie réaliste? C'est pas pour être à contre-courant. Hein. Non. C'est vrai, en philosophie réaliste, on est un peu à contre-courant. Quel est le grand courant moderne? C'est le vécu. C'est le néoplatonisme. Le néoplatonisme domine. Ça, je ne peux pas nier. Il a toujours un peu dominé. Alors, on dit, la philosophie réaliste, Aristote, c'est vrai. C'est Aristote qui, le premier, met en pleine lumière cela. Mais avant Aristote, il y a les présocratiques qui sont réalistes. Et c'est vrai que déjà, dans les présocratiques, il y a deux courants. Il y a le courant de Parménide et le temps d'Héraclite. Et Parménide commence la philosophie beaucoup plus par l'inspiration, par une révélation. La déesse. J'ai jamais vu la déesse. Vous, peut-être. Parménide a vu la déesse. Il lui a donné la main. Moi, quand même. Hein. Vous voyez, il projette un réalisme. Donner la main à la déesse. C'est quand même un réalisme. Et c'est là où il découvre l'être. Et puis, Héraclite. Alors, l'expérience externe. Très, très fort. Vous voyez, donc, très, très vite, il y a eu un partage dans la philosophie. Je comprends très bien, du reste, c'est tout à fait normal. Des philosophies qui insistent beaucoup plus sur le vécu, l'expérience interne, et des philosophies qui insistent beaucoup plus sur l'expérience externe. On revient tout à ça, tout le temps. Mais en reconnaissant que je ne peux pas séparer les deux. Mais je mets un ordre. En reconnaissant que je ne peux pas séparer les deux. Mais je mets un ordre entre les deux. Un ordre de l'expérience interne et l'expérience externe. Pourquoi je prends cette philosophie réaliste et non pas la philosophie néoplatonicienne? Je ne suis pas contre la philosophie néoplatonicienne. Mais je dis que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Parce que le propre de la pensée philosophique, c'est qu'elle veut être exhaustive. Je crois que tout philosophe cherche une connaissance exhaustive. Et c'est pour ça que beaucoup de philosophes ramènent la philosophie à un système, à une synthèse. Parce que, justement, ils veulent que ce soit exhaustif. Une philosophie réaliste n'est pas synthétique. Elle est ouverte à toute expérience. Donc, une philosophie réaliste n'est pas un système. Je crois que c'est très important de se rappeler là. Que des quantités de philosophes réalistes cherchent un système, c'est vrai. Mais une philosophie réaliste qui se veut réaliste ne peut pas être synthétique. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. La référence d'une philosophie réaliste, c'est l'homme existant. C'est l'homme existant. C'est la réalité existante. Or, la réalité existante me domine. Elle est première. Ce n'est pas ma connaissance qui mesure la réalité. C'est la réalité qui est au point de départ de ma connaissance. C'est pour ça que tout se ramène, vous voyez, de fait à cela. Et ça, c'est intéressant à y réfléchir. Qu'est-ce qui est premier, la réalité ou ma pensée? Si j'ai une philosophie de l'expérience interne, c'est ma pensée qui mesure la réalité. C'est le vécu qui mesure la réalité. C'est le vécu qui m'intéresse en premier lieu. C'est évident qu'au point de vue séduction, le vécu m'intéresse en premier lieu. Parce que vous direz tout de suite, mais la réalité, si je ne la connais pas, elle ne m'intéresse pas. La réalité, si ce n'est pas vécu, ça ne m'intéresse pas. Donc, dites tout simplement que ce qui vous intéresse, c'est le vécu. Ce qui vous intéresse, c'est l'expérience interne et que la réalité que vous ne connaissez pas, c'est X. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, la tentation permanente de ramener la philosophie au vécu, c'est une tentation permanente. Ça, je crois qu'il faut bien le reconnaître. Puisque seul le vécu intéresse le philosophe. Seul le vécu m'intéresse. Et malgré ça, je maintiens qu'une philosophie doit être réaliste si elle veut être exhaustive. Si elle veut être une philosophie ouverte, c'est le réel qui m'intéresse. C'est l'homme qui m'intéresse, dans toute sa complexité, dans toute sa richesse. C'est ça qui m'intéresse, avant tout et plus que tout. Le vécu de l'homme m'intéresse. Mais vous comprenez très bien, si je prends le vécu de l'homme, c'est mon vécu. Et donc ma philosophie, elle m'intéresse, moi. Et l'autre. Le vécu de l'autre, qu'est-ce qu'il est? Tout problème de Lévinas. L'autre. Le vécu de l'autre, ce n'est pas mon vécu. Vous avez votre vécu, j'ai le mien. Est-ce qu'on va pouvoir s'entendre? Si je reste comme absolu sur mon vécu, je ne vous rejoindrai jamais. Oh oui, partiellement. J'écouterai d'une oreille, oui, c'est son vécu. Ça m'intéresse, mais ce n'est pas le mien. Alors, dans la mesure où je deviens ami de quelqu'un, son vécu m'intéresse. Parce que c'est mon ami. Le vécu de mon ami est mon vécu. Mais si ce n'est pas mon ami, son vécu ne m'intéresse pas du tout. C'est étranger complètement à moi. C'est pour ça que l'autre, c'est l'enfer. Ou le purgatoire. S'il est mon ami, c'est le purgatoire. Si c'est quelqu'un de complètement étranger, c'est l'enfer. Vous voyez le problème qui est très actuel. Hein. Le problème de la philosophie d'aujourd'hui, c'est moi et l'autre. Hein. C'est le vécu, c'est mon vécu, et puis c'est l'autre. Alors, si je prends comme critère de pensée, comme mesure de pensée, mon vécu, je ne rejoindrai jamais l'autre. Je le rejoindrai partiellement. Mais je ne le rejoindrai jamais vraiment. Si au contraire, je dis non, ce n'est pas mon vécu. Mon vécu est toujours quelque chose de second au plan philosophique, tout le temps. Parce que mon vécu présuppose un autre. Qu'est-ce que le gosse fait au point de départ? Le gosse, un petit gosse, il s'intéresse beaucoup aux lunettes. J'ai remarqué ça. Et puis, tu veux les éventuer? Pas les lunettes, hein? Tout de suite. C'est, ça l'intéresse, surtout s'il a des parents qui n'ont pas de lunettes. Alors tout d'un coup, il voit quelqu'un avec des lunettes. Il sert pas à lunettes, hein? C'est extraordinaire. Et là, il prend les lunettes. Ça l'intéresse. Voyez, c'est très curieux. Un gosse s'intéresse tout de suite à ce qu'il y a d'original qu'il n'a pas encore vu. La réalité extérieure à moi m'apporte toujours du nouveau. Mon vécu, je le renouvelle tout le temps, mais c'est la soupe réchauffée. Mon vécu. Mon vécu d'hier, et mon vécu d'aujourd'hui, et mon vécu quand j'avais 10 ans, mon vécu quand j'étais dans le sein maternel. Oh là là, c'est ancien. Il faut ramener jusque-là pour aller jusqu'à mon vécu. Et alors, on prend une méthode archéologique. Quelle est la première pierre que je découvre? Je fais de l'archéologie. Alors si j'ai un vécu brillant, extraordinaire, et puis tout d'un coup, quand je vieillis, les gens s'intéressent moins à moi. Alors mon vécu se diminue. Hein? âge, ou est-ce qu'il est un succès d'année de l'être civilisé? Aujourd'hui, on mettrait des sauvages dans des musées pour conserver le sauvage. Parce qu'il n'y a plus de sauvages. Il n'y a plus que des êtres civilisés. C'est ennuyeux. La même architecture partout. Ah, comme on est de retrouver une maison construite encore par un artisan. Avec la chaume. Comme c'est de retrouver l'être sauvage. Ça, c'était le rêve de Merleau-Ponty. Est-ce qu'il l'a découvert vraiment? J'en sais rien. Vous voyez, tout est là. Et ça, pour moi, c'est capital au plan philosophique. Savoir si ma philosophie repose sur une expérience externe. Ceci existe indépendamment de moi. Je n'ai pas cherché tellement longtemps. L'autre, mais je le rencontre tous les matins quand même. Même si j'ai un tout petit peu de bon sens, tous les matins je rencontre l'autre à des carrefours. Puis quand on vit dans le même bâtiment, il y en a beaucoup d'autres. Et dans la rue, je le rencontre. Alors est-ce que la philosophie commence par cette expérience très simple, au-delà de toute critique? Ou est-ce que la philosophie commence par une réflexion critique? Et c'était le gros problème de Kant. Et on n'en est pas sorti. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Et c'est pas commun de vivre après Kant. C'est pas commun de vivre après Descartes. C'est pas commun du tout. Entre Descartes et les Grecs, il y a les théologiens. Et les théologiens, c'est quelque chose. Hein? Jusqu'à la fin de sa vie, Descartes a eu peur des théologiens. Parce que ça a été ses maîtres, des Suarésiens. Et Merleau-Ponty, jusqu'à la fin de sa vie, a eu peur du chrétien, donc du théologien. J'aime pas te parler à un théologien, à un chrétien, parce qu'il sait. Il dit ça, Merleau-Ponty. Ça, c'est extraordinaire de dire ça. Moi, j'aime de parler à quelqu'un qui sait. Je n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il veut tout découvrir lui-même. Alors, tout découvrir lui-même, est-ce que c'est accepter le réel autre que moi? La peur de rencontrer quelqu'un qui sait. Moi, j'aime bien rencontrer des personnes qui savent. Et qui savent autre chose que moi. On s'enrichit quand même. Autrement, on reste dans son vécu. Vous voyez, le vécu poussé à l'extrême, c'est l'autodidacte. Il n'accepte pas de maître. Parce qu'accepter un maître, c'est accepter une réalité autre que nous. Et alors, au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'oxygène. Les fenêtres sont fermées. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on ne s'aperçoit pas. C'est faux comme problème. Parce que quand même, le monde existait avant que j'existe. J'en suis sûr, ça. Si le monde existait avant que j'existe, mais je suis né dans ce monde. Alors, second problème, le corps, être dans le monde. Ah, je comprends très bien. Mais être dans le monde, c'est accepter qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, il faut l'accepter jusqu'au bout. Vous voyez, si ma pensée philosophique veut être une pensée exhaustive, le philosophe n'a pas le droit d'accepter quelque chose d'a priori. Je crois que c'est ça qui pour moi montre le vrai philosophe. Aucun a priori. C'est pas commun du tout. Hein. Dès que vous acceptez un a priori, vous n'êtes plus philosophe. Tous vos a priori ne sont pas philosophiques. Il faut essayer. C'est pas commode. Et on doit tout le temps chercher ça pour découvrir ce qu'il y a de premier. Ce qui est premier n'est pas a priori. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. c'est l'expérience de la réalité externe. Ce n'est pas un a priori, ça. C'est l'expérience toute simple où je constate qu'il y a quelque chose autre que moi. Et ce quelque chose autre que moi m'intéresse. Qu'il s'agit d'un bras d'herbe, qu'il s'agit de l'eau, qu'il s'agit des nuages, qu'il s'agisse du soleil, de la lune, c'est autre que moi. Qu'il s'agisse d'un autre, d'un homme, autre que moi. Eh bien, la philosophie, si elle veut être exhaustive, ne peut que respecter l'autre et comprendre que l'autre a quelque chose à me dire. Si je m'enferme dans mon vécu, c'est très bien. Je pourrais peut-être en être génial. Mon vécu sera génial. Mais il y aura toujours un manque de respect vis-à-vis de l'autre. Et je risquerai très vite de ne plus m'intéresser à l'autre et de rester enfermé en moi-même. Et ma philosophie ne sera plus exhaustive parce que mon vécu est toujours sûr. Prenez l'exemple très simple du vécu d'un accident. Il y a celui qui a vu l'accident et celui qui l'a vécu. Le vécu de l'accident est second. Il a fallu qu'il y ait l'accident pour qu'il vécu l'accident. L'accident a quand même été une réalité. Si j'avais été seul sur la route, il n'y aurait pas eu d'accident. Donc il y a quand même quelqu'un qui m'a cogné la tête. Il y a quelqu'un qui est arrivé. J'avais pas vu. J'étais secoué par lui. Oui, il réfléchit sur des choses très simples. Je me dis, mais quoi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, évidemment, si je commence la philosophie en disant comme Brunswick, je sais pas si c'était au cours de Brunswick, mais le père de Houille assistait de temps en temps. Et il me disait que ça l'intéressait beaucoup. Il me racontait comment ça se passait. Brunswick commençait son cours en Sorbonne. Messieurs et mesdames, c'était poli ce temps-là. Hein. Messieurs et mesdames, mettez à la porte votre bon sens et vos expériences propres. Nous allons philosopher. Par exemple, revenez souvent. Et c'est pas étonnant, quand je ferai Brunswick, ça ne peut pas être autrement. Donc il faut entrer dans le vécu de Brunswick. C'est intéressant. Mais le vécu de Brunswick, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Il est mort. Et la philosophie continue. Alors si on mettait à la porte, vous voyez, si je vous disais, messieurs, mesdames, mettez à la porte votre bon sens, mettez à la porte vos expériences propres, nous allons philosopher sur le corps. Donc sur le vécu de mon corps. Bah oui, mais le vécu de mon corps, je veux bien, mais le vécu de mon corps n'est pas le vécu, n'est pas le corps. J'ai une petite expérience du vécu de mon corps. Une petite expérience. Vous avez la vôtre, que je respecte. Je ne dis pas qu'elle est nulle. Et elle m'intéresse. Le vécu du corps d'un sportif, ça m'intéresse. S'il a une expérience extraordinaire, son corps, regardez ça, vous voyez les Jeux Olympiques, au bas du ski, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ça ne change pas beaucoup ma philosophie du corps, mais ça la manifeste. Ça me dit quelque chose. Donc, vous voyez, il s'agit bien beaucoup. Nous faisons une philosophie à partir de l'expérience externe et donc réveiller toutes vos expériences. Et toutes vos expériences intéressent le philosophe. Et comme nous cherchons tous à être des philosophes, nous entrons dans la réflexion philosophique, quoi. Sans dire on est un philosophe, non, on n'est jamais un philosophe. On cherche tout le temps. On cherche tout le temps à entrer plus avant et on découvre tout le temps. Alors, dans une philosophie réelle, commence à découvrir là, par l'au-delà, je commence à découvrir ce point de vue dans la personne, le comment, le corps et le comment. Point d'interrogation. Ou partie essentielle. Enfin, intégration du corps dans la personne, c'est un très gros problème et très très intéressant. Et c'est à partir de là que je verrai les activités de la personne humaine et leur lien avec le corps. Toutes les activités. Je pourrais commencer par là. Hein. J'aime mieux commencer de cette manière-là. Ça me semble plus réaliste. Voilà les cinq grandes parties. Puisqu'il y a cinq jours. Et cinq.